passe à l'ouest.
Du 4 au 17 juin, les cinémas du Grutli proposent de redécouvrir les plus beaux films d'animation japonais en deux volets, avec 9 longs-métrages et un ciné-concert. Et avec nous, Morgane Poquet, programmateur des cinémas du Grutli, qui va certainement nous expliquer que le cinéma d'animation japonais, non, ce n'est pas que Miyazaki. Bonjour Morgane.
Bonjour Edna.
Alors je l'ai dit, on pense cinéma d'animation japonais, on pense tout de suite Studio Ghibli, Miyazaki. Est-ce que c'est inévitable dans votre cycle ?
C'est inévitable, évidemment. Ce sont des artistes... J'utilise le pluriel parce qu'effectivement il y a Hayao Miyazaki, mais il y a aussi une panachée d'artistes qui travaillent à la fois à ses côtés et qui font leur propre film, ne serait-ce que par exemple son propre fils, mais aussi les studios Ghibli sont un studio de production et qui accompagne d'autres artistes que le grand maître Hayao Miyazaki. Et évidemment, c'est indispensable aujourd'hui, tant il a été, tant le studio Ghibli et Miyazaki en lui-même ont permis depuis 20-30 ans la reconnaissance des qualités immenses du cinéma d'animation japonais. En France, en Suisse, on les a toujours un peu considérés un peu de côté, notamment en lien avec les productions télévisuelles qu'on peut aimer par ailleurs. Mais c'est enfin la reconnaissance à la fois du public et aussi des festivals. Il faut se rappeler que Le Voyage de Chihiro, c'est l'Ours d'Or de Berlin en 2000. Donc c'est à la fois des formes de reconnaissance artistique très fort. Et le studio Ghibli, c'est effectivement, et Miyazaki particulièrement, sont un peu la proue de ce grand navire qu'est l'animation japonaise. Et comme tu le diras, ou on va sans doute en parler, c'est évidemment, il y a des films de Miyazaki et de Ghibli dans ce premier volet de ce focus sur les films d'animation japonais, mais évidemment pas que, puisque sur presque sur 9 films plus un ciné-concert, il y a uniquement deux films réalisés par le maître.
Alors justement, est-ce que l'objectif de ce cycle, c'était aussi de montrer que le cinéma d'animation japonais, c'était pas que ça, et de proposer des réalisateurs qui étaient peut-être un peu moins connus, ou des films dont on a moins entendu parler? Il y avait cette envie de pousser des choses un peu moins connues?
En tout cas, d'en montrer la diversité. Alors, moins connu, c'est toujours étrange. Moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste du cinéma d'animation japonais. Heureusement, j'ai eu le concours, l'assistance, la collaboration de l'équipe du cinéma du Grutli. Je pense notamment à Charlotte Langel, qui est présente ici, qui s'occupe de l'animation sur les réseaux sociaux et qui connaît bien mieux que moi le cinéma d'animation japonais. Et on en a discuté en équipe. On a fait une espèce de brainstorming, une réunion. C'est très long, à peu près 10 minutes. Et effectivement, on a pointé des films comme ça qui en fait depuis 20-30 ans parcourent le cinéma d'animation japonais, 20-30 ans et même plus, hein. Akira, c'est 1988 par exemple, et on a des films de Isao Takahata, on a des films d'Otomo, on a des films d'Otomo, de Satoshi Kon, voilà, de Hosoda. Ce sont des films qui parcourent à différentes étapes l'histoire de l'animation au Japon.
Moi, j'y connais vraiment rien en animation japonaise. Est-ce qu'il y a des styles ? Est-ce qu'il y a une pluralité des propositions dans le cinéma d'animation japonais ? Et est-ce que vous proposez justement plusieurs styles dans ce cycle ?
Exactement. Alors, il y a évidemment du travail qui se fait sur simplement avec un stylo et du papier. Je pense notamment au travail de cet animateur qui s'appelle Koji Yamamura, qui a présenté rien de moins que son dernier court-métrage qui s'appelait Extremely Short, parce qu'il est vraiment très court, qui fait 5 minutes, l'année dernière au Festival de Cannes. Et lui, il travaille effectivement sur différentes formes, c'est-à-dire à la fois des marionnettes, du papier avec un stylo, de la gouache, de la pâte à modeler et de la photographie. Alors, évidemment, on connaît maintenant les productions plus récentes qui se font en 3D par ordinateur, mais on a aussi des films qui se font avec différentes techniques de l'ordinateur, mais aussi encore une fois de l'artisanal, dirait-on.
Et il y a eu une envie de montrer plusieurs périodes, l'histoire, l'évolution des films d'animation japonais ?
Alors il y a cette envie-là. Après, on est toujours, et c'est aussi la réalité de la programmation, on est toujours un peu contraint par la question des droits. Puis la question de l'accès aux copies. Donc évidemment, cela restreint un petit peu nos envies initiales, qu'on aimerait peut-être plus ambitieuses. Le cinéma d'animation japonais, par exemple en Suisse, n'est pas extrêmement bien distribué et pas extrêmement facile d'accès, si ce n'est les plus grands titres qui sont, entre guillemets, relativement faciles à programmer. Pour les autres films, et là, c'est plutôt des discussions avec des ayants droit internationaux, pas forcément avec le bon matériel de projection. Donc voilà, ça, c'est un petit peu aussi une question importante, mais qui dit aussi malheureusement de quelle manière est considéré le cinéma d'animation japonais. Et tu me disais, pardon, que...
L'évolution historique.
Oui, en tout cas, il y avait l'envie de ne pas se restreindre aux dernières productions de ces 5-10 dernières années, mais de remonter presque. Je pense que le film le plus lointain, encore une fois, c'est Akira, qui date de 1988. On a un autre film de 92. Après, évidemment, dans les années 2000, ça explose absolument. Le Château Ambulant, Millennium Actress, Steam Boy, voilà, ce sont des films des années 2000. Même Arrietty, qui est un film des studios Ghibli, mais qui n'est pas réalisé par le maître Miyazaki, mais par Yonebashi, fait partie de ces différents styles. Il y a des films qui, encore une fois, s'adressent plus particulièrement, et certains passent uniquement en version française auprès d'un public plutôt jeune, mais on a des films, par exemple Akira, qui évidemment s'adresse à un public beaucoup plus adulte.
Et tu as commencé à parler un peu de la perception du cinéma d'animation japonais ici en Suisse, mais est-ce que c'est compliqué à programmer? Est-ce qu'il y a un public pour ça, ici en Suisse et plus particulièrement à Genève?
Alors, c'est deux questions un peu différentes, mais la question de la difficulté à programmer, on en a un peu parlé tout à l'heure. En tout cas, est-ce qu'il y a un public? Nous on a remarqué avec un plaisir absolu que dès qu'on programmait un film d'animation japonais, ça a été régulièrement le cas ces dernières semaines, ces derniers mois, il y avait un public absolument fou, par ailleurs passionné, passionnant, qu'on n'a malheureusement pas la chance d'accueillir tous les jours, et effectivement on s'est dit qu'on allait aussi faire ce cycle pour pouvoir les accueillir encore plus. C'est des séances. Quand on a passé la première fois Akira, on a rempli la grande salle de 200 personnes, on a refusé une centaine de personnes, et idem à la deuxième projection qui a eu lieu plusieurs semaines, presque mois plus tard, on a encore refusé du monde. Là, on a repassé Paprika d'un très grand réalisateur japonais qui s'appelle Satoshi Kon. On montre Millennium Actress du même réalisateur dans ce cycle. Et lorsqu'on a passé Paprika, c'était deux fois 150 personnes dans la grande salle. Donc oui, il y a un public qui est friand et qui aime se retrouver pour partager, pour découvrir, redécouvrir ces films avec ses amis en version originale, sous-titrée français.
Donc quand vous pensez à un cycle comme celui-là, vous pensez d'abord aux initiés du style, ou vous avez aussi envie d'attirer un public qui potentiellement ne connaît pas ce style?
C'est vraiment un mélange, hein. C'est à la fois des films attendus, des films un peu indispensable qu'on construit un tel focus, une telle rétrospective, un tel programme, mais il faut aussi surprendre. Donc, et aussi laisser des portes d'entrée pour des gens pour des spectateurs, des spectatrices qui pourraient être un peu allergiques ou un peu, qui auraient un peu peur et qui pourraient rentrer dans l'animation japonaise, dans ce cinéma-là, dans son inventivité formelle, par un Miyazaki. Peut-être que tout le monde n'a pas vu Le Château Ambulant, tout le monde n'a pas vu Princesse Mononoke, qu'on remontrera dans la deuxième partie du cycle. Et qui sait, le cinéma appelle le cinéma, si ça plaît, peut-être qu'ils viendront voir Steam Boy, peut-être qu'ils viendront voir Belle, peut-être qu'ils viendront voir un autre film du cycle, Suzume, qui est une forme plus récente d'animation japonaise, ou encore un film de Takahata, comme le Conte de la Princesse Kaguya, qui est un film d'une poésie absolue.
Et tu viens de parler de Princesse Mononoke pour cette deuxième partie du cycle, vous avez pensé ça comment? Quel est le découpage?
Alors, il n'y a pas de découpage à proprement parler, enfin, il y a un découpage temporel. Le cycle se fait en deux volets. Le premier commence ce mercredi 4 juin jusqu'au 17 juin. Le deuxième sera du 18 juin au 1er juillet. Il est découpé simplement parce qu'on a deux programmes différents pour le mois de juin, et qu'il était plus simple aussi de répartir un peu les films entre les deux périodes, selon leur durée, selon qu'il y ait un peu un équilibre aussi dans chaque volet, avec des films peut-être plus faciles d'accès, plus connus, et des films peut-être plus difficile, c'est pas le mot, mais qui demande peut-être de connaître quelques étapes du cinéma d'animation japonais pour pleinement s'y plonger. Et voilà, c'est quelque chose. Par ailleurs, c'est une envie qu'on avait depuis longtemps au cinéma du Grutli, et que je peux vous annoncer en première mondiale à Radio Vostok, c'est qu'on va, à partir de la rentrée, on va créer un ciné-club consacré à l'animation japonaise, une séance par mois, voilà, qu'on va dédier. Un créneau par mois qu'on va consacrer à l'animation japonaise.
Et maintenant qu'on a l'exclu, on sera obligé de te recevoir pour en parler à la rentrée.
Ça me convient.
Tu parles de ces différents types de films. Est-ce que pour en présenter certains, est-ce que tu pourrais nous dire avec quel film commencer pour se lancer dans le style quand on n'y connaît rien?
Ça, c'est toujours dur à dire, c'est un peu selon les sensibilités, mais peut-être qu'un Porco Rosso de Hayao Miyazaki, on le passe à la fois en VO pour un public plus adulte et en VF pour les plus jeunes. Peut-être que c'est une voix, même si le film est quand même assez dur, il parle de la guerre, comme souvent dans les films d'animation japonais. Et évidemment, le film n'est pas dans cette première partie, mais on peut penser à un film qui s'appelle comme Le Tombeau des Lucioles, qui parle évidemment d'Hiroshima. Le cinéma d'animation japonais est quand même très ancré dans l'histoire japonaise. Et là, je peux penser évidemment à un film comme Millennium Actress de Satoshi Kon, qu'on montre aussi dans cette première partie de volet, qui revisite à la fois l'histoire du Japon et aussi l'histoire du cinéma japonais. Pas que le cinéma d'animation, mais l'histoire du cinéma japonais, c'est-à-dire à la fois les films de geisha, les films de monstres, les Godzilla, les films de science-fiction, les films de sabre et d'épée, les films de Guzapan. Donc c'est peut-être aussi un film qui permet de rentrer dans le cinéma d'animation de manière assez sereine et je crois très belle.
Une question que les programmateurs détestent, un irratable, celui qu'il ne faut vraiment pas passer à côté dans ce cycle.
Bon, moi j'ai une affection. Est-ce qu'il ne faut pas le rater? Je ne sais pas, mais en tout cas, si on me pose celui que je préfère, même si je les aime vraiment tous, encore une fois, j'ai une sensibilité particulière pour le travail de Satoshi Kon, et peut-être plus particulièrement pour Millennium Actress, qui est un film qui est d'une folie absolument renversante et qui reparcourt à la fois, encore une fois, l'histoire du cinéma, l'histoire du Japon et l'histoire du cinéma japonais du 20e siècle et même avant. Et c'est vraiment un film, en 1h24, il se passe tellement de choses sur l'écran et en termes de vitesse, d'exécution, d'animation, c'est assez renversant.
J'arrête de te demander de faire des choix déchirants. Plutôt, tu peux nous présenter peut-être ce ciné-concert qui aura lieu pendant ce cycle également.
Ce ciné-concert, on est très heureux de le proposer en partenariat avec le Conservatoire de musique de Genève. C'est la deuxième fois qu'on collabore sur un tel format. C'est sous la coordination de Thomas Desclos. Et il y aura des élèves donc, du conservatoire qui vont jouer différents instruments, du piano, du bois, des cuivres. Et sur des films de ce réalisateur japonais qui s'appelle Koji Yamamura, qui n'est pas le cinéaste le plus connu, mais qui est absolument passionnant. Ce sont des films qui sont très surréaliste et qui, encore une fois, comme je te le disais précédemment, utilise différentes manières d'animer littéralement ces personnages sur l'écran, la pâte à modeler, la phonographie, les marionnettes, et ce sera des formes très courtes, entre 6 et 16 minutes, plusieurs courts-métrages sur lesquels les élèves du conservatoire ont travaillé ces dernières semaines et vont nous offrir leurs travaux, leurs études, leurs propositions sur ces films muets de Koji Yamamura. On est très heureux de cette soirée ce vendredi 6 juin à 20h30.
Et pour la suite du cycle, vous l'annoncerez quand ?
La suite du cycle va se monter, en train de se monter. On est vraiment en train d'y réfléchir, de contacter les ayants droit, les distributeurs. Le travail aussi qu'a fait Charlotte Langelle, qui s'occupe des réseaux sociaux du cinéma du Grutli, c'est qu'elle a aussi recueilli les propositions de nos followers. On dit comme ça, un follower.
Je précise que la communication du Grutli est dans la salle. Ouais, tu ne parles pas tout seul.
Charlotte a recueilli des propositions qu'on a étudiées pour aussi donner la possibilité à...
Et vous êtes surpris des retours ?
On peut être surpris. Moi, il y a des films, par exemple, que j'envisageais pas ou tout simplement que je ne connaissais pas. Je pensais que c'était plus des séries. En fait, non, il y a des films comme Cowboy Bebop, par exemple. Donc moi, je découvre aussi en même temps que les propositions affluent de la part de nos followers.
Mais en tout cas, pour la première partie du cycle, c'est à partir du 4 juin. Merci Morgane d'être venu présenter cette première partie. Et à bientôt, probablement en septembre, pour ce ciné-club.
Avec grand plaisir. Merci Emma.
Radio Vostok.ch